progresser dans notre foi et notre assurance. Amen. Que les jeunes peuvent aller à l'éducation chrétienne. Je pense que Darlene va aussi apporter la parole samedi. Fait que ça va être un bon moment aussi pour chacune et chacun. Je n'ai pas vraiment un texte en particulier, mais s'il y avait un texte pour le message ce soir, ce serait Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et puis, je vais parler sur la foi. Ça devrait être j'espère que vous allez dire que c'était la meilleure place à être en ville. Tu sais. J'espère que ce ne sera pas le Tim Hortons. Hey, j'aurais pris un café chez Tim, me semble. J'aimerais ça que vous sortiez à soir pour vous dire que c'était la meilleure place à être en ville. Pas à cause de moi, à cause de la parole de Dieu. Fait que je vais prêcher comme si on était 500. Et je vais me donner tout entier à mon message. J'ai hâte de prêcher ce message-là. Il y a des problèmes qui se répètent souvent dans le monde, à deux niveaux principalement que je veux parler ce soir. C'est les mauvaises relations entre personnes et c'est l'insécurité parce que quelqu'un manque de foi. L'insécurité parce que quelqu'un manque de foi. La foi n'est pas la foi quand il y a un manque d'assurance. Dans la Bible, dans Hébreux au chapitre 11, au verset 1, c'est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, une personne qui a la foi a de l'assurance. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de foi. Et Dieu veut que ses enfants marchent avec assurance dans des certitudes qu'ils ont. Hein? La foi, c'est une croyance que j'ai des bonnes chances de croire que c'est vrai. Donc, j'ai une certitude, j'ai des bonnes certitudes que c'est vrai. Et donc, le croyant est appelé de plus en plus à marcher d'un pas ferme. Et on le voit dans les affaires. Dans les affaires, par exemple, quelles sont les deux émotions qui dirigent la bourse? C'est quoi les deux émotions qui dirigent la bourse? La spéculation, mais dans les émotions, ça serait quoi? Qu'est-ce qui nous fait spéculer? Quelles sont les émotions qui nous font spéculer? L'inquiétude, la peur de perdre, puis l'avarice. Ce sont les deux émotions qui dirigent le marché. Puis ceux qui savent faire de l'argent, c'est ceux qui avancent d'un pas assuré puis ne se laissent pas amener du côté de la peur de perdre et la soif d'en avoir trop rapidement. Les autres, ils attendent juste qu'il y en ait qui fassent des erreurs. Les autres, à la bourse, c'est là qu'ils vont aller chercher le mouton. Ils vont aller chercher l'argent quand les autres vont avoir spéculé, justement, parce qu'ils avaient peur, ils ont retiré, ils sont partis avec leur argent. Ou ceux qui en voulaient plus, fait qu'ils en mettaient encore plus. Et puis, et c'est là qu'ils vont faire leur argent. Donc, une des deux émotions, même dans la bourse, c'est la peur, l'insécurité. Dans les relations, on le voit. Comment on le voit? On le voit souvent par le fait qu'on blâme les autres. On n'est pas sécure. Et on va blâmer les autres pour nos propres insuffisances. On va être comme une souris qui est poignée dans un coin, ou c'est quoi un rat peut-être? C'est quoi l'animal que quand il est poigné dans un coin, il mord? C'est un rat? Les rats plus hein, les souris, les autres, ils s'écrasent. Hein? OK, c'est pas un bon exemple. Donc l'insécurité va me faire douter des faits de ce que Dieu dit de moi, et de mon salut, de mon appel, et aussi de toutes les accusations du malin qui vient contre moi. Et donc, lorsque je suis insécure, on a dit tantôt, une des caractéristiques de quelqu'un d'insécure, c'est quelqu'un qui changeait d'idée facilement quand il était confronté. Eh bien, le malin, lui, là, il est un ennemi, et il vient mentir, il vient nous accuser devant Dieu jour et nuit, et puis une personne qui est insécure finit par croire ce que le diable lui dit. Il reçoit les accusations, il les répète, il les tourne à l'intérieur, puis il doute de ce que Dieu dit de lui, de son salut, de son appel et de toutes les provisions que Dieu a envers lui pour l'aider à vivre sa vie puis marcher dans ce siècle aujourd'hui avec la foi en Dieu. Donc, en guise d'introduction, aujourd'hui, j'aimerais parler qu'une des tactiques les plus puissantes de Satan, c'est de nous faire douter. C'est de nous faire douter. Jésus même, le diable a essayé en disant « Si t'es le Fils de Dieu, citer le Fils de Dieu. Hein? Il a commencé, il a amené le monde entier dans la chute. Comment? Si Dieu a-t-il réellement dit? Et depuis le Jardin d'Éden, nous, on est obligé de dire, c'est qui m'a dit ça? Parce qu'il y a une autre voix qui est venue nous faire douter. Hein? Et donc, en guise d'introduction aussi, la contre-attaque la plus efficace contre le malin dans ce monde, c'est Dieu qui vient me dire la vérité pour défaire les mensonges du diable. Dans Jean au chapitre 8, il dit « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. » Et la vérité que Dieu va venir nous donner, si on la croit, on va marcher ferme, même s'il y a de la pression. Même si c'est difficile, on va marcher ferme comme voyant celui qui est invisible. On va marcher avec foi. Aujourd'hui, dans ce message-là, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer? C'est que la foi, c'est l'assurance sur ce que Dieu dit comme étant la base de ma relation avec lui. Je ne le vois pas nécessairement. Ce n'est pas encore arrivé qu'il a répondu à ses promesses. Mais sa parole, je la crois, et l'assurance que ce que Dieu a dit est la base de ma relation avec Dieu. Peu importe le nombre de fois que je tombe par terre, peu importe le nombre de fois où il y a des gens ou des choses qui vont s'opposer à moi, la Bible enseigne que j'ai le privilège d'être totalement et complètement sûr dans la personne de Jésus-Christ pour mon salut, autant que pour la grâce qui m'est accordée et ce qu'il dit de moi. Donc, un croyant aujourd'hui peut marcher de façon ferme, d'un pas ferme, et dire, comme dans le psaume 3, « Toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Peu importe le nombre de fois que le croyant peut avoir tombé ou bien non, que c'est les épreuves qui l'ont fait mettre à genoux, le Seigneur va relever sa tête, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Le Seigneur va relever notre tête et il peut dire, comme dans 2 Corinthiens 4, 18, « On ne regarde point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Quand tu lis les Évangiles, tu vois toutes sortes d'histoires qui mettent à nu la foi ou l'incrédulité des gens, la foi ou l'insécurité des gens. Tu vas voir des histoires et tu vas pouvoir poser-toi la question quand tu lis les histoires, est-ce qu'ils ont la foi? Doutent-ils de Dieu? Doutent-ils de leur possibilité d'obtenir la grâce? Est-ce qu'ils doutent qu'il va y avoir une solution dans cette histoire-là? Est-ce que les épreuves sont venues les user à un tel point qu'ils ont perdu même l'assurance que Dieu pourrait répondre à la foi qu'on place en lui pour qu'il puisse répondre? À Matthieu 15, si vous voulez lire à la maison, dans Matthieu 15, versets 22 à 28, on voit une femme, c'est une cananéenne. Donc, ce n'est pas une juive, elle n'appartient pas aux enfants de la promesse. Sa fille est tourmentée par un démon. En règle générale, les juifs les rejettent. Il y a du racisme envers les gens qui ne sont pas du peuple de juifs. Elle est aussi rejetée par les disciples dans cette histoire-là. Et lorsque tu la regardes, elle essaie de s'approcher pour parler à Jésus, puis ça ne marche pas. Et elle persévère à s'approcher de lui, et tout dans son attitude communique, même si je ne suis pas une juive, même si je suis juste une cananéenne, je crois que Jésus-Christ m'aime, puis je sais qu'il peut faire quelque chose pour ma fille. C'est probablement la première fois que cette femme-là voit Jésus, parce que quand tu as un enfant qui est tourmenté par un démon, puis tu sais que la solution est en ville, je veux dire, elle y aurait été avant, ça l'aurait pu. Fait que je pense que c'est la première fois qu'elle le rencontre. Elle s'en va aux pieds de Jésus, elle pleure à ses pieds, et elle va décrire à Jésus que sa fille est tourmentée d'un démon, et elle va lui décrire sa problématique, et les disciples vont intervenir, puis ils vont dire, « Renvoie-la, maître, elle fait juste crier derrière nous, elle est fatigante, elle nous fatigue, renvoie-la. Hein? » Et donc, la femme, elle va montrer une attitude magnifique. Pourquoi? Parce que même si eux, ils disent « Renvoie-la », elle continue d'intercéder pour sa fille, elle continue à essayer d'avoir de l'aide, puis Jésus, lui, ne parle pas. Il n'a pas parlé encore, tu sais, il laisse faire ça. Et Jésus va dire, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Ah. Jésus est en train de dire ce que les disciples veulent entendre. Les disciples veulent entendre qu'il est le sauveur d'Israël. Jésus ne continue pas la phrase en disant, « Je suis envoyé aux brebis d'Israël pour le moment, mais je veux qu'on touche tout le monde. » Mais pour le moment, mon agenda, c'est de m'occuper de former des disciples pour qu'on puisse aller ensuite dans le monde. Mais il fait juste dire la première partie pour laisser faire. On va voir que son silence en veut dire beaucoup. Okay? Donc, les disciples et la foule avaient voulu faire taire Jésus quand le Bartimée. Bartimée avait su que Jésus était en ville, puis il avait crié « Jésus, Jésus, viens me guérir ». Et puis les disciples, puis la foule l'avaient fait taire. Puis là encore, ils faisaient taire cette femme-là et ils s'opposaient à l'agenda du maître. Puis une personne qui est insécure, une personne qui ne croit pas à qui Jésus est et ce qu'il fait, vont aussi par insécurité aller contre le travail que le Seigneur est en train de faire. Okay? Et ça, c'est intéressant. Les disciples s'opposent à Jésus ici puis à cette dame-là. Et ils ont une insécurité parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Jésus pourrait faire dans cette situation-là et qu'est-ce que Jésus veut faire dans cette situation-là. Et il y a trois mots que la femme va dire, mais trois mots super puissants au verset 25. Elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Trois petits mots. « Seigneur, secours-moi ». Et donc, j'aimerais qu'on imagine la scène ensemble. Plusieurs d'entre nous, on aurait quitté à premier essai. Elle vient d'abord demander de l'aide et Jésus ne lui adresse pas la parole, ne répond pas. Les disciples essaient de te renvoyer et elle n'abandonne pas. Nous, on aurait peut-être abandonné avant ça. Il ne veut rien savoir, il me répondrait sinon. Trois mots. « Seigneur, secours-moi » et Jésus va répondre « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » On pense que là, ici, il est en train de la traiter de chien. Mais il faut essayer de comprendre ici qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Les Juifs raffinés avaient un petit chien à la maison. Et il est en train de lui dire qu'il n'est pas assis à la table des alliances avec Israël. Donc, les enfants d'Israël étaient assis à la table. Et puis, les autres sont dans la maison aussi. Je vais vous montrer à la fin de cette histoire-là comment que non seulement il ne la traite pas de chien, ce n'est pas un nom qu'il lui traite. Nous, on dit ça, « Ah, t'es chien ». Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il y avait dans la culture, ça. Okay? Donc, ce n'est pas une discrimination nécessairement. Elle est déterminée et elle dit, « Oui, mais je suis dans la maison. » Ça veut dire que si le chien est dans la maison, il peut manger des miettes qui tombent de la table, non? Fait qu'elle a dit, parce que c'est vrai aussi, elle connaissait bien l'alliance abrahamique, parce qu'elle disait que l'étranger pouvait, il y avait un coin du jardin, quand que tu cultivais, tu devais laisser le coin aux étrangers, pas labourer un certain nombre de, tu sais, pour laisser l'étranger. Et Dieu disait, tu prendras soin de l'étranger parce que tu as été toi-même étranger en Égypte. Alors Dieu valorisait beaucoup les étrangers et il pouvait aussi participer d'une certaine manière aux alliances, aux promesses qui avaient été faites au peuple juif en se conformant à la loi et tout. Mais elle dit, les petits chiens, là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et au verset 28 de Matthieu 15, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Jésus est gagné par l'assurance que cette femme-là est là. Elle a la foi, puis il dit, « Ta foi est grande. » Pourquoi elle a une grande assurance? Elle est allée contre le racisme de son temps, contre le silence de Jésus, contre le renvoi de ses disciples qui essayaient de la renvoyer, puis contre les paroles de Jésus qui dit, « Je suis juste envoyé au brebis perdu d'Israël. » Puis elle dit, « Oui, mais il y a des miettes qui tombent en bas de la table, là, tu sais. » Et puis, Jésus est gagné, puis il dit, « Ta foi est grande. » Et quand il dit « femme », ce n'est pas « femme », c'est « dame ».« Dame », c'est un mot, c'est un titre de politesse pour montrer que la femme, elle a du caractère. C'est une courtoisie, un respect. Hein? Dans l'original, c'est « dame de grande foi » ou « dame de, ouais, c'est ça, dame de grande foi ». Et donc, loin de la traiter comme un chien, okay, il la traite avec le respect d'une femme qui a du caractère parce qu'elle a une assurance qui est pleine de foi. Et alors que tous s'opposaient à elle, elle était prête à agir en fonction de ce qu'elle savait de Jésus-Christ et de ce qu'il pouvait faire quelque chose pour elle. Et dans Proverbe 31, au verset 30, « La grâce est trompeuse. » Puis ici, grâce, dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose qui était beau. Okay, donc, la beauté. La beauté est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et on voit une femme ici qui craint l'Éternel, qui reconnaît Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il peut faire pour elle. Et Jésus va la louer et il va dire, « Dame de grande foi ». Et dans cette histoire-là, on voit les disciples aussi, l'attitude des disciples. Lorsqu'on regarde la vie des disciples, pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Ils ont parlé avec lui presque à tous les jours. Ils l'ont vu opérer des miracles, des délivrances. Ils l'ont vu pleurer. Ils ont vu sa compassion pour les malades, puis pour les pauvres, pour ceux qui n'avaient pas de berger. Et ils manifestent de la résistance envers le Seigneur et dictent un peu l'agenda du Messie. Le contraste est assez grand parce que elle ne l'a probablement jamais vu. Eux autres, on passe 3 ans avec. Elle ne l'a probablement jamais vu. Elle le voit pour la première fois et elle manifeste une foi qui fait encore l'objet d'un message en 2016. On va encore en parler dans l'éternité. On va discuter dans l'éternité de cette histoire-là et c'est une foi qui a plu au Fils de Dieu. Ça démontre une confiance complète dans l'amour de Jésus pendant que lui ne fait rien pour encourager dans ce sens-là. Elle vient, elle mouille les pieds de ses larmes, puis il ne répond pas, comme je vous dis. Puis après, il dit, je suis venu pour les enfants d'Israël. Donc, alors que lui semble rien faire pour elle, elle a une confiance complète qu'il va faire quelque chose. Et elle persiste. Et donc, cette foi-là, aujourd'hui, elle défie l'incrédulité des disciples. Mais elle vient défier notre incrédulité à nous autres aussi. Parce qu'on manque d'assurance, puis on arrête de s'approcher avec assurance pour être secouru dans nos besoins. On baisse les bras, on perd de vue notre caractère. On perd notre assurance, on perd notre appel, on perd, pas notre salut, mais on perd notre assurance de notre salut, on perd la vitalité du royaume de Dieu, on perd notre assurance. On croit les mensonges du diable, on se fait user par l'adversaire, puis on finit par avoir une foi de petit pain. La foi pour un petit pain. Avant, on voulait atteindre le monde. Et là, on croit pour notre pain. Et Dieu, je crois que par cette histoire-là, il veut nous challenger. Il veut challenger ses disciples aussi. Il y a plusieurs histoires dans la vie des disciples qui montrent que c'était une gang de pas beaucoup de foi. Hein? Ils n'avaient pas la foi quand venaient les tests. Ils perdaient leur assurance quand ils avaient peur des conséquences de ce qu'ils croyaient. Pensez à la barque. Quand Jésus va consciemment aller se coucher dans la barque et appeler une tempête ou laisser une tempête monter, puis lui va dormir dans la poupe du bateau. Jésus dort. Jésus ronfle dans cette tempête-là. Et Jésus les conduit dans cette tempête-là pour que les disciples n'aient rien d'autre que leur foi en Dieu pour passer cette situation-là. Regardez à la croix. Tous les disciples, sauf Jean, ne sont pas à la croix. Quelques jours, voire quelques heures avant, Pierre avait dit, « S'il me fallait mourir, ça ne t'arrivera pas. » Il ne l'abandonnerait pas. Et puis Pierre avait dit que s'il mourait, lui, il ne le renierait pas, le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques heures après? Quand les ténèbres sont venues, dans les ténèbres, il a douté de ce qu'il avait cru dans la lumière. Il a perdu son assurance dans les ténèbres. Et c'est souvent ce qu'on fait. Quand les tests viennent, on abandonne nos convictions, on abandonne notre foi. On arrête d'être certain de la bonté de Dieu. Hein? Ça commence à aller mal sur nous, on doit avoir péché. Naturellement, on dirait que c'est naturel dans notre cœur qu'on se dit « ça va mal, ça doit être parce que j'ai fait quelque chose de mauvais ». Pas nécessairement. Donc, Pierre, oublié dans les ténèbres, où il a lâché dans les ténèbres ce qu'il avait décidé dans la lumière, le test est venu voler son assurance. Et Jésus avait dit dans Luc 22, 31, « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Il a demandé la permission et ça lui a été accordé. Et Jésus a dit, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » La foi, tu perds ton assurance, tu perds ta foi. Et donc, les tests vont nous faire défaillir. Peut-être que tu es ici ou que tu m'entends sur enregistrement et tu as déjà eu plus d'assurance qu'aujourd'hui. Peut-être, comme Joseph, tu rêvais du monde entier. Tu sais, Joseph, lui, il avait vu que le soleil et la lune se courbaient devant lui. Fait que c'est plus que le monde entier. Lui, c'était l'univers. Il avait la vision que l'univers se courbait devant lui. Tu sais. Puis qu'il avait un impact sur le soleil, sur la lune, puis sur tous ses frères. Tu sais. Puis il y a eu un rêve qui, de grandeur, un rêve d'impact. Et il a été emprisonné par des circonstances qui lui ont fait perdre les rêves de grandeur. Et je pense que ça arrive dans la vie de chaque croyant où, au moment donné, on arrête de rêver. Et lui, il s'est ramassé dans une prison et ça a été 19 ans, tout ça, que ça a duré 12 ans en prison, plus un autre 7 années avant de voir vraiment comment Dieu redonnait la vision à Joseph. En attendant, il a peut-être eu la foi pour un petit pain pendant un bout de temps. Là, tu sais, je veux dire, il était peut-être responsable de la prison, puis ce qui était sous son contrôle, il faisait du mieux qu'il pouvait. L'humilité produite par l'emprisonnement de Joseph était nécessaire. Joseph a développé son assurance non pas en lui, mais en son Dieu. Et, j'ai pensé à ça aujourd'hui, c'est son rêve qui l'a amené là. Mais c'est le rêve d'un autre qui l'a sorti. Hein? C'est son rêve qui l'a amené là, mais c'est le rêve d'un autre qui l'en a sorti. Puis c'est le rêve d'un gars qui avait rêvé de quoi, puis il ne savait pas c'était quoi, en tout cas, puis il est allé donner l'explication au gars qui est en prison. Puis le gars, il y en a un, finalement, qui a parlé en bien de lui. Laisse-moi juste revenir ici. Notre façon de voir nos épreuves nous donne soit de l'assurance, soit nous fait perdre notre assurance. Notre façon de voir nos épreuves. Je veux dire, combien qu'il y en a qui vont là, dans des courses là, à Bromont ou ailleurs, là, des courses dans la boîte, là, puis qui sont une gang, là, puis il faut qu'ils se portent quasiment sur le dos là, si ils sont dans la boîte, sont dans des. Tu sais, il y a des. Comment tu appelles ça, là, des courses extrêmes, là, comment ils les appellent? Des hein? Ouais, les X-Men, puis tout ça, là. Tu sais, des courses d'épreuves. Quand tu sais que tu pars avec ta gang, puis qu'on va tout arriver au bout, puis qu'on va avoir besoin les uns des autres, tu prends l'épreuve, puis tu dis, OK, c'est pour ça l'épreuve. Mais notre façon de voir l'épreuve, c'est qu'à un moment donné, là, on mange des coups, puis on ne voit plus pourquoi on mange des coups. Et si on est à cet endroit-là dans notre vie, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta jeune vie d'adulte, peu importe, si tu es rendu que tu manges des coups, puis tu ne sais plus pourquoi tu en manges, ça te prend un but. Une ligne d'arrivée. Et si on voyait nos épreuves comme une course à obstacles pour obtenir ce qui nous est promis de la part de Dieu, on embrasserait ce qui nous arrive. Notre façon de voir nos épreuves va vraiment déterminer si on va perdre l'assurance ou on va continuer avec plus d'assurance. Puis ici, je ne dis pas, vous êtes sur un navire qui coule, puis dites que le navire ne coule pas. Je ne parle pas d'une foi folle là, qui dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est une détermination d'obtenir de la part de Dieu ce qu'il nous promet quand on persévère avec lui. On va regarder un petit vidéo, un petit peu pour se détendre, qui montre un petit peu comment on pourrait voir nos... Les tests feront pas qu'on va... on sortira pas nécessairement intact de nos tests. Mais la manière qu'on va voir nos tests, si on a perdu de vue que je vais grandir avec Dieu, je vais maturer avec Dieu, et je vais avoir quelque chose à donner à quelqu'un d'autre après avoir passé cette épreuve-là. Hein? Il y a deux façons quand tu es dans un test. Tu t'appuies-toi sur ton sort, ou tu en sors et tu en aides d'autres. Puis la foi qu'on a, c'est cette foi-là qui nous rend plus que vainqueurs. Il y a un homme qui s'appelle Bobby Clinton qui a écrit un livre sur le leadership. C'est un extrait d'un cours que j'ai monté pour le leadership, que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à traduire et à mettre en page pour les leaders. Donc, c'est un extrait. Bobby Clinton, dans son livre sur le leadership, a étudié et fait des recherches dans l'histoire de l'Église et dans la Bible, et il est arrivé à cette conclusion. Il dit que la majorité ne finissent pas bien leur vie chrétienne. Et il conclut que seulement 25% finissent bien. 1 sur 4. La raison avancée par Clinton, c'est qu'ils n'ont pas continué de grandir ou de maturer proprement. Regardez bien la citation de Clinton. « Nous avons observé que la plupart des gens arrêtent d'apprendre à l'âge de 40 ans. Par cela, nous voulons dire qu'ils ne poursuivent plus activement la connaissance, la compréhension, l'expérience qui va augmenter leur capacité à grandir et leur possibilité de contribuer aux autres. Ils vont simplement se reposer sur ce qu'ils connaissent déjà. Et il dit « Ceux qui finissent bien maintiennent une attitude positive et apprennent toute leur vie. » Donc, il arrive à un endroit, à un moment donné, là, à 40 ans, à un moment donné, là, les gens disent « Moi, j'ai mon bagage, j'ai appris. » Mais ce qui arrive, c'est que si dans les tests, on agit un petit peu de cette manière-là aussi, puis on dit « Garde, j'ai eu ma dose. Puis on arrête de grandir, on arrête d'apprendre. On va mal terminer. On va faire partie des trois quarts qui finissent pas bien. » Le témoignage de la femme cananéenne, elle nous stimule, puis je ne sais pas si on peut dire qu'on est comme la femme cananéenne ou comme les disciples. Elle nous stimule parce qu'on n'est pas tout à fait là à avoir de l'assurance que malgré tout, toutes les tests, toute l'adversité, on va aller, on va avancer avec assurance, puis on va être béni par le Seigneur. Ça nous stimule parce que ça nous appelle à maturer, l'exemple de la femme cananéenne, mais celle qui nous encourage, c'est celle des disciples incrédules aussi. Pourquoi? Parce qu'on est en compagnie d'incrédules. Hein? Lorsqu'on perd notre assurance, on est plus capable de s'identifier aux disciples qu'avec la femme cananéenne. Fait que les deux sont importants. Il y en a un qui nous montre, regarde, que Jésus les a traînés pendant 3 ans, puis il leur disait souvent qu'il n'y avait pas de foi, qu'il n'y avait pas d'assurance. Hein? Les autres, ils nous encouragent. Parce qu'ils nous disent, bon, ben, je suis peut-être comme eux autres, mais la femme cananéenne, elle nous stimule. Combien de fois, même après la résurrection, les disciples, Jésus leur apparaît, puis il leur dit, montez en Galilée. Je pense une dizaine de fois, puis ils vont rester cachés dans une maison à Jérusalem. Ils vont rester cachés, puis ils ne bougeront pas de là. Ils ne vont pas obéir. Ils sont pas sécurs dans ce que Jésus leur demande et de le faire. On est sur la terre pour plaire à Dieu. Cette femme-là, elle a plu au Seigneur parce que Jésus lui a dit qu'elle avait eu une grande foi. Et on est appelé, non pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Puis cette femme-là, elle a plu à Jésus-Christ. Le silence de Jésus envers cette femme, le fait qu'il ne parlait pas quand elle venait, a laissé le meilleur sortir de elle. Une assurance déterminée que Dieu est pour moi puis qu'il va me faire quelque chose pour moi. Le sommeil dans le bateau espérait sortir le meilleur des disciples que quand tu es rendu dans une épreuve où la seule affaire que tu peux compter, c'est sur Jésus, rien d'autre, bien Jésus espère voir la foi dans ses disciples. C'est pour ça qu'il dort dans le bateau. Dans notre vie aussi, Dieu espère voir le meilleur quand la seule chose qui te reste, c'est Dieu, pour faire confiance que tout va être bien puis qu'il va pourvoir à tes besoins, qu'il va te conduire. Quand Dieu semble ne pas pourvoir, quand Dieu semble être silencieux, est-ce que je vais être blessé parce qu'il ne semble pas répondre? Est-ce que je vais avoir de la peine et méditer sur mes problèmes? Ou est-ce que je vais plaire à Dieu en acceptant de croire qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que sa parole dit à propos de moi? Et qu'est-ce qu'elle dit à propos de lui? Et laisser la parole de Dieu me guérir et me rassurer dans mon cœur incrédule. Est-ce que je veux grandir en maturité? Au lieu de regarder seulement à marcher par la vue, puis regarder à ce que je vois, ou je suis prêt à dire, « OK, Seigneur, je ne vois pas comment tu vas faire dans cette situation-là, mais je te fais confiance, je ne marche pas par la vue, je vais marcher par la foi, et je veux grandir en maturité dans ce domaine-là. » Quand je suis blessé parce que je ne crois pas que Dieu peut intervenir dans ma situation, ce n'est pas de ma blessure qu'il faut parler, c'est de ma foi. Tout ne se résume pas toujours à guérir notre cœur blessé. Parce que des fois, notre cœur blessé, là, c'est nous autres qui le blessent parce qu'on se voit en dehors de Dieu. On se voit abandonné par Dieu et on agit comme si Dieu n'était pas là. Et on agit comme des incrédules orphelins qui n'ont pas de père pour prendre soin d'eux autres. Et là, on est blessé, on se sent abandonné, on sent qu'il n'écoute pas nos prières, on sent qu'il est silencieux, on sent qu'il dort dans notre barque. Puis là, on est tout inquiet. Mais Dieu ne veut pas parler sur l'inquiétude, il veut parler sur la foi. Il veut que tu aies de la certitude dans les choses qui sont invisibles. Okay? Donc, le remède, ce n'est pas toujours d'écouter un cœur qui pleure. Des fois, c'est de se ressaisir et de dire, « Hey, qu'est-ce que je fais là, moi? » Psaume 73, « Quand je réfléchissais à ces choses-là. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais percé dans les entrailles, le psalmiste va dire, mais il dit qu'il se comparait à ceux qui ne connaissaient pas Dieu, puis qui faisaient ce qu'ils voulaient dans le monde, puis qu'ils réussissaient, qu'ils étaient riches, puis qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais lui, il est croyant, fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Puis là, il commençait à tout penser à ça, puis il voyait comment que les justes, souvent, sont accablés, sont persécutés, puis les ceux qui ne sont pas croyants, mais eux autres, ils marchent au-dessus de leurs affaires, ça va bien, leurs affaires. Puis il dit, quand je réfléchissais à ces choses-là, il dit, j'étais percé, il dit, j'étais comme, à tes yeux, comme un animal des champs. Comme s'il avait perdu sa réflexion. Et donc, quand on regarde nos épreuves du mauvais bord, eh bien, puis on a un cœur blessé à cause de ça. Dieu ne veut pas guérir notre cœur. Il veut nous fortifier notre foi pour qu'on arrête de se blesser. Dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de tests aussi. Je suis arrivé vers la fin de mon message, mais c'est la troisième partie de mon message. À chaque fois que tu dois faire un pas de plus dans ta foi et prendre des décisions, Dieu va te tester pour révéler ta foi ou ton insécurité. Dans 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement de la parole de vérité. Ici, Timothée, c'est un pasteur, donc en tant qu'ouvrier, il devait être passé à l'épreuve. Et il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Pas devant les hommes. Devant Dieu comme un homme qui a été éprouvé. Les tests vont révéler si tu es insécure ou si tu as la foi. Un homme éprouvé, c'est un homme qui a passé, ou une femme qui a passé l'épreuve devant son Dieu. Un homme éprouvé. Dans Jacques 1,12, regardez ici. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Laisse passer. Prends pas ce train-là. Ce n'est pas pour toi. Dieu dit, je n'ai pas préparé ça pour toi. C'est le train de ce monde. Laisse passer le train. Okay. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou les tests, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et donc, il y a plus que juste ce qu'on retire dans cette vie. Dieu prépare une couronne des récompenses pour celui qui va supporter les tests et qui va avoir fait confiance à son Dieu quand tout lui disait le contraire. Voyons Abraham dans l'Ancien Testament, des exemples dans l'Ancien Testament. Abraham, Dieu lui dit, quitte Ur en Chaldée, va-t'en à Canaan. Et là, il arrive à un endroit où il y a une famine, et là, il y a un test. Il faut qu'il prenne soin de sa famille. Il agit en tant qu'homme raisonnable. Il est allé en Égypte parce qu'il y avait une famine. Dieu dit non. Dieu l'avait appelé par la foi à un lieu qu'il ne connaissait pas et Dieu avait promis de pourvoir à ses besoins de le bénir 8 versets auparavant, dans la Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. Mais il est arrivé à un endroit, Abraham, où la faim se faisait ressentir et il voyait sa famille. En tout cas, il y avait de la famille avec lui, c'est sûr. Il y avait sa femme. Et il commençait à penser à lui, puis il pensait comme pourvoyeur. Puis là, il a perdu de vue que Dieu l'appelait dans un pays qu'il n'avait pas vu. Et il a commencé à marcher pour satisfaire ses propres besoins personnels. Il n'a pas écouté Dieu. Et la famine réduisait Abraham à Dieu. Abraham, Dieu l'avait appelé, pas aller en Égypte. Il l'avait appelé à aller en Canaan. Et là, la seule chose qui se fermait sur lui, tout se fermait sur lui, il restait Dieu. Abraham est allé en Égypte et il n'a pas écouté Dieu. Il y a eu des conséquences pour ça. Dans Hébreux 11,6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » OK? Ce qu'on voit, ce n'est pas le seul élément pour décider. Ce qui manque, ce n'est pas le seul élément pour décider. La décision doit tenir compte de notre foi. Dans Philippiens 1,6, Dieu nous dit que ce qu'il a commencé en nous, il va le rendre parfait pour le jour de Christ. Donc, Dieu permet des épreuves pour tester ce qu'on croit, tester notre assurance et mettre en lumière notre insécurité afin d'y remédier. Dieu veut venir réparer ça, il veut venir nous fortifier puis nous faire passer des tests pour augmenter notre foi. Dernier exemple dans l'Ancien Testament, Israël, au désert, a été délivré miraculeusement de Pharaon, de l'Égypte. Et dans Hébreux 11, verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Le roi était vraiment en colère. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oui, laisse aller mon peuple. Hein? Et au début, il dit, ah, je vais faire quoi? Ben là, il y a l'histoire des bâtons, puis tout. Mais Moïse a pris de l'assurance en son Dieu. Puis il était capable de sortir avec, après avoir sacrifié les agneaux, mis le sang sur les poteaux, il était capable de partir après avoir vu la puissance de Dieu, après avoir cru tout ce que Dieu avait fait. Il croyait que Dieu était aussi capable de faire quelque chose. Et c'était écrit qu'il marchait, puis il n'avait pas peur du roi. Parce qu'il marchait avec celui qui est invisible, comme voyant celui qui est invisible. Ils ont échappé à l'oppresseur, et lorsque le pharaon est revenu avec tous ses soldats, il y a une colonne de feu qui s'est mise entre les deux, puis là, il y avait de l'eau. Et là, l'eau s'est ouverte, la colonne de feu est restée là, toute la nuit est restée là, les Égyptiens n'ont pas été capables de les rejoindre, il a fait clair toute la nuit, et là, ils ont passé à travers les eaux, et les eaux ont enveloppé leur ennemi. Ils ont échappé, ils ont vu Dieu agir. Dieu a dirigé son peuple à des eaux amères, Mara. Dieu les amène à un endroit qui n'est pas bon pour eux. Hein? Dieu, tu nous as-tu amené là? Dieu les amène là, puis là, ils vont commencer à être insécures envers le plan de Dieu et le dirigeant qui les a aidés à traverser les eaux de la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont murmurer. Hein? Ils ne voient pas d'issue, comme un rat dans un coin, et il n'y a pas de solution, donc c'est le leader. Donc, c'est le Seigneur aussi. Donc, murmure contre Moïse, murmure contre Dieu. Et les murmures contre ceux qui les avaient conduits au travers de la mer Rouge, comme si Dieu, qui les avait empêchés d'être détruits, les amènerait à un endroit pour qu'ils soient détruits. Comme si Dieu vous avait sauvé de l'enfer éternel pour vous détruire votre vie. C'est impossible. C'est pas possible. Peu importe l'impasse, peu importe les difficultés que vous pouvez traverser, c'est impossible que Dieu vous ait délivré de l'enfer pour vous amener à un endroit de faillite. Dieu a des plans, dans Jérémie 29, 11, des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, il ne faut pas perdre notre assurance. Quand les tests viennent, si Dieu nous a sauvés de l'enfer, combien plus forte raison il va nous donner toutes choses avec Jésus-Christ aussi. Mais eux, on dit, Dieu nous a délivrés de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Leur assurance, la foi qui donne de l'assurance, était évaporée à cause des tests. Et c'est important, car on est passé au travers des tests, c'est pour raffiner notre foi. Et il faut regarder nos dilemmes, nos difficultés, avec l'idée que si Dieu m'a sauvé de l'enfer, puis il va me donner aussi toute chose bonne. Et non pas que s'ils me comme eux, ils ont passé au travers la mer Rouge, ils ont été protégés de l'Égypte, ce n'est pas pour que Dieu les amène et les détruise. Le manque d'assurance fait que les gens blâment quelqu'un. Je suis dans la difficulté, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Sais-tu quoi? Comme Joseph, il faut apprendre à tourner la page. Puis d'arrêter de dire que c'est à cause des autres qu'on est dans cette situation-là. On est dedans. Et c'est avec Dieu qu'on est dedans. Jésus est dans la barque avec son peuple. Il dort. Mais Dieu peut nous amener à un endroit où on a juste besoin de lui. Et pas de toute l'enfance qu'on n'aurait pas dû avoir. Oui, c'est correct, ces choses-là sont là. On est des victimes, on a vécu des choses. Mais il faut arrêter à un moment donné de blâmer les autres. Puis dire, OK, j'ai vécu des choses, mais c'est ma responsabilité à moi de sortir de là. Avec Dieu. Donc, souvent, un manque de foi en Dieu va nous amener à blâmer les autres pour notre misère. Ah, fait qu'en tout cas, tout le reste du peuple d'Égypte, ils veulent retourner en Égypte, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'eau encore. Puis, le plan de Dieu n'est pas bon. Ils finissent par dire, le plan de Dieu n'est pas bon. S'il y a trois quarts des chrétiens qui finissent mal, c'est parce que les gens, à quelque part, ils disent que Dieu ne les a pas bien conduits. Hein? Que Dieu ne les a pas bien conduits. Ça ne serait pas différent du peuple d'Israël, non? Vous ne trouvez pas? L'insécurité nous fait prendre le plan de Dieu en main. Dieu, tu ne fais rien, je m'en occupe. On va retourner en Égypte, on va se nommer un leader pour en revenir. Dieu donne des solutions comme pour frapper un rocher, pour qu'il y ait de l'eau qui sorte. Dieu, il veut montrer à son peuple, OK, vous chialez parce que vous êtes dans l'épreuve, vous cherchez un blâme, mais je vais vous donner de l'eau. Fait que là, il y a un rocher qui se fait frapper, puis il y a de l'eau qui en sort, puis là, ben, etc. Des très bons exemples, contrairement, positivement, dans l'Ancien Testament, il y a une femme qui s'appelle Esther, dans Esther 4, au verset 16, elle dit, elle se présente devant le roi, puis qu'elle n'a pas été appelée, elle peut se faire trancher la gorge. Mais elle sait que le peuple d'Israël dépend d'elle. Et elle va dire ceci dans Esther 4, 16, « J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » À un moment donné, regarde, je fais confiance à Dieu, là, puis moi j'avance d'un pas ferme. Puis coudon, si je meurs, ben je mourrai. Hein? Trois garçons dans Daniel 3, 17 qui sont appelés à se courber en même temps que tout le monde pour adorer une statue d'or que le roi avait faite. Et les trois jeunes hommes disent, « Écoute, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas les dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Dieu peut nous délivrer, mais il ne le fera peut-être pas. S'il ne le fait pas, on va quand même continuer à marcher dans notre foi. Hein? Et il y a des histoires comme ça, extraordinaires, dans le livre de Hébreux au chapitre 11, que vous pouvez lire. C'est par la foi qu'ils fermèrent la gueule des lions. C'est par la foi que... Puis regardez, pensez au mot « assurance ». Tout au long de Hébreux 11, quand vous le lisez, pensez à l'assurance que ces gens-là avaient. OK? Et puis, ça devrait certainement communiquer une grâce à votre cœur. Donc, où est-ce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'assurance. Où est-ce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de foi. Conclusion, Dieu veut qu'on vive de toute parole. Dieu veut qu'on soit délivré des mensonges que l'ennemi essaie de mettre dans notre tête, particulièrement dans les temps de difficultés et d'épreuves. Dieu veut qu'on marche en pleine confiance que Dieu a des solutions dans les moments de test. Dieu a des solutions. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais qu'il en a. Ça se pourrait que Dieu est silencieux, comme Jésus qui ne répondait pas à la dame qui criait. Il se peut qu'il arrive du rejet, comme les disciples qui ont renvoyé la dame, comme les frères de Joseph avec sa vision. Il se peut qu'il y ait des oppressions diaboliques, comme la fille de la dame que Jésus voulait que la femme voulait secourir. Ça se peut qu'il y ait des tempêtes, puis que Dieu se cache, comme Jésus, dans la poupe du bateau. Mais Dieu veut que nous, on marche avec assurance, comme voyant celui qui est invisible, et qu'on ne baisse pas les bras par insécurité, en blâmant les autres, pour le mauvais sort dans lequel on est tombé. Mais qu'on marche avec assurance parce qu'on croit les promesses de Dieu. Et au bout de la ligne, ma foi lui plaît. Ma foi lui plaît. Je suis peut-être tout dépeigné, mon ami. Je suis peut-être au milieu de la mer de Galilée, puis le bateau, les voiles ont déchiré, puis tout. Mais ma foi lui plaît. Et ça, c'est important. Amen. On va prendre des questions ou des commentaires.